dans notre série Les dernières paroles de Jésus, autrement dit son testament, nous voici arrivés à un échange très riche et intéressant que Jésus a eu avec ses disciples au sujet de la croix. Un échange si profond que je vous proposerai de l'aborder non pas en une fois ce matin, mais en deux fois. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, et nous y lirons les versets 20 à 26. Jean 12, donc, les versets 20 à 26. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit : « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Quelques mots du contexte. Nous sommes, faut-il le rappeler, à Jérusalem, à l'intérieur du temple, dans cette zone particulière qu'on appelle le parvis des femmes. Jésus a réuni ses proches et s'entretient avec eux. Et c'est alors, donc, verset 20, que s'approchent des non-juifs qui, s'adressant à Philippe, lui demande « Monsieur », c'est le sens du terme qui est utilisé ici, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Et que, aussitôt informé par Philippe et André de cette démarche inattendue, Jésus répond, verset 23, « L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. » Comme si la requête de ces hommes était pour lui le signal qu'il devait aller maintenant à cette mort, par laquelle il toucherait bientôt à la gloire. Étonnant, non ? Eh bien, pas tant que cela, finalement. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus : « Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, entendez, de la maison d'Israël. Celles-là aussi, il faut que je les amène, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Or, qui sont ces non-juifs qui s'adressent à Philippe ? Littéralement, ces Grecs qui tiennent tant à voir Jésus ? Selon toute vraisemblance, des païens, comme on disait à l'époque, suffisamment captivés par le Dieu d'Israël pour s'être voulus à Jérusalem au moment de la célébration de la Pâque. Et surtout, s'être décidé à demander un entretien avec celui dont tout le monde parle, depuis quelque temps en particulier, et qu'il soupçonne désormais d'être le Messie. D'où le regard singulier que Jésus porte sur eux. Ils sont à ses yeux les premières de ces autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, qu'il attendait en quelque sorte pour donner sa vie. Pourquoi, selon vous ? Afin, très probablement, que son sacrifice apparaisse d'emblée aux yeux de tous comme de portée universelle. Plusieurs, dans le quatrième évangile, rendent témoignage à l'universalité de l'œuvre expiatoire et rédemptrice du Fils de l'homme. Ainsi Jean, dit le baptiseur ou baptiste, qui apercevant Jésus, s'écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ou les habitants de Samarie, qui après s'être entretenus personnellement avec Christ, confessent « Il est vraiment, lui le Messie, le Sauveur du monde ». Ou encore Jésus lui-même, bien sûr, qui dans ce même chapitre annonce « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, allusion à la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est qu'il faut que tous comprennent que si le Fils est venu, ce n'est pas pour un peuple seulement, mais pour la terre entière. Et que s'il accepte d'être comme immolé à la croix, c'est afin d'ôter à jamais le péché de tous les croyants, de quelque nation, tribu, peuple ou langue qu'il soit. Parce qu'il importe par-dessus tout que tous se sachent concernés par la croix et libres, oui, libres de s'en approcher pour en cueillir d'un coup tout le fruit en reconnaissant simplement dans le crucifié leur sauveur personnel. La croix, donc, est un sacrifice universel au bénéfice duquel tous, ici, nous pouvons également nous placer par la foi. En celui venu, nous dit Paul, réconcilier tous les hommes avec Dieu. Mais il nous faut revenir à notre texte. Jean ne nous dit pas si ces non-juifs en recherche, c'est ainsi que nous les qualifierions aujourd'hui, ont ou non pu rencontrer Jésus. Jean ne nous le dit pas. Aussi soudainement qu'ils sont apparus, ils disparaissent de son récit. Aux côtés du maître, cependant, demeurent ses disciples. Et c'est à eux que Jésus maintenant fait part des réflexions que vient de lui inspirer la requête de ses visiteurs venus d'ailleurs. Et ces réflexions, naturellement, tournent autour de la croix. La croix encore et toujours. Une croix que Jésus s'applique à présenter ici aux siens, à nous présenter ce matin encore, comme tout à la fois une nécessité absolue, un succès total et un précédent exemplaire. Une nécessité absolue d'abord. Verset 23, « L'heure est venue, dit Jésus, où le Fils de l'homme va ou doit être élevé dans sa gloire. » Il est clair que l'heure dont il parle ici est celle de son élévation ou, si vous préférez, de son passage à son Père. Or, ce passage comprend sa mort sur la croix, qu'il désignera d'ailleurs bientôt comme l'heure de souffrance par excellence. En sorte que par heure, nous pouvons comprendre ici passion. Et cette heure, comme il l'appelle, Jésus le sait, est inéluctable. Les disciples voudraient l'y soustraire. Ils ne peuvent souffrir la pensée que leur maître les quitte. Mais plus encore, peut-être, ils n'imaginent pas un seul instant que le Messie de Dieu puisse périr. Jésus, lui, sait qu'il n'échappera pas à la croix. Mais entendons-nous bien, pour cette seule raison, que c'est pour elle qu'il est venu parmi les hommes. Pour la subir, elle, dans toute son atrocité, et accomplir ainsi, une fois pour toutes, l'entière expiation du péché du monde. La croix, donc, une nécessité, mais une nécessité par la seule volonté du Fils, lequel, nous dit la Bible, dès l'origine, choisit librement de répondre à l'attente de son Père en offrant sa vie en paiement pour notre salut. Souvenez-vous de ces paroles, Jean 10, verset 18, « Personne, dit Jésus, ne me prend la vie. Personne. Mais je la donne de ma propre volonté. » On chercherait en vain ici la moindre trace de contrainte extérieure. Jésus mourra, certes, mais sous l'unique pression de son amour pour les hommes, pour nous. Il s'offrira en sacrifice, mais seulement parce qu'il le désire. afin de réconcilier Dieu avec une foule immense, la multitude proprement innombrable de toutes celles et de tous ceux qui accepteront humblement de reconnaître que sans lui et son geste inouï, ils étaient irrémédiablement perdus. Ah, mes amis, saurons-nous un jour trouver les mots et les actes qui lui diront vraiment notre reconnaissance pour ce choix? Nul n'était en droit d'attendre du Père qu'il livra son Fils, ni du Fils qu'il offrit sa vie comme rançon pour tous. C'est pourtant ce que tous deux, d'un commun accord, s'imposèrent de faire parce qu'ils nous aimaient et ne pouvaient souffrir de nous abandonner à notre triste et pourtant juste sort. Mais si Jésus, dans notre texte, commence par présenter à ses disciples la croix comme une nécessité absolue, il les invite aussitôt après à la comprendre comme un succès total. Un succès total. Verset 23 toujours, « Voici, déclare-t-il, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire. Cette heure est venue. » Pour les douze, il ne fait aucun doute que la mort de leur maître ne peut être que le signe d'un douloureux échec, d'où leur refus de l'envisager. Non, Jésus ne doit pas mourir. Il en va de sa crédibilité. Comment en effet affirmer encore qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, s'il ne se montre pas même capable de se soustraire à la main des hommes? Non, Jésus ne peut pas disparaître. Les conséquences, s'il venait à mourir, seraient trop graves. Plus personne ne croirait en lui et les Juifs pourraient relever la tête et crier victoire, eux. Quand nous vous disions que Jésus n'était qu'un imposteur, quelqu'un qui a voulu vous faire croire, pauvre naïf, qu'il était le Fils de Dieu, et qui est mort, misérable, cloué sur une croix, quelqu'un qui prétendait être venu pour sauver tous les hommes, et n'a même pas pu se sauver lui-même. Non, décidément, Jésus n'a pas le droit de mourir. Il ne peut pas nous faire ça. Et les disciples font tout pour écarter de leur pensée cette funeste éventualité, parce que pour eux, la mort du maître ne peut être que le signe d'un cuisant échec et, pour tout dire, le plus grand des malheurs. Jésus, lui, c'est évident, voit les choses autrement. Et pourquoi les siens ne s'y trompent pas, il leur présente ici la croix comme ce qu'elle sera, en fin de compte, un succès total, un triomphe absolu. Verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Autrement dit, tant que le grain de blé demeure dans le grenier, il se conserve, mais sans acquérir la puissance de se reproduire. Il faut qu'il soit jeté en terre, que ses enveloppes se décomposent, qu'ils périssent comme grains, pour qu'ils puissent revivre d'une manière nouvelle et renaître dans une multitude d'êtres semblables à lui. La leçon est on ne peut plus claire. Tant qu'il remettra à plus tard l'heure de la croix, Jésus se maintiendra en vie. Mais il demeurera stérile. Or, s'il est venu dans notre monde, c'est pour porter du fruit, se multiplier en donnant naissance à une race innombrable. Il faut par conséquent qu'il meure, car seule sa mort le rendra fécond. À la manière du grain de blé, donc, il mourra. Mais sa mort ne sera nullement le signe d'un échec. Sa mort, au contraire, parce qu'elle sera comme une source d'où coulera la vie pour une foule immense d'hommes et de femmes appartenant à tous les temps et à tous les horizons, marquera l'étonnant triomphe de la vie sur la mort. Et nous sommes nombreux ici, merci Seigneur, à savoir que sa mort effectivement fut féconde. Ne sommes-nous pas nous-mêmes de ceux qui ont tiré leur vie de sa mort? Si nous vivons aujourd'hui, et nous croyons que nous vivons, et même à jamais, n'est-ce pas en effet parce que lui, hier, est mort pour nous. Ayant tous péché, nous étions tous privés de la glorieuse présence divine, écrit l'apôtre Paul. Tous nous étions donc morts, puisque coupés de Dieu, l'unique source de vie. Mais, ajoute l'apôtre, par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal, nos péchés sont pardonnés. Par sa mort donc, ce péché qui nous retenait loin de Dieu, Jésus l'a ôté, écarté, éliminé. En sorte que par sa mort toujours, il nous a rapprochés de Dieu, réintroduits dans sa communion, réconciliés avec lui. C'est le texte qui nous a été lu il y a quelques instants. Voilà pourquoi nous pouvons témoigner aujourd'hui avec assurance que nous vivons. Nous vivons. Et même à jamais. Ayant retrouvé le contact avec Dieu, nous avons retrouvé la vie et la vie pour l'éternité. Je vois à vos visages que ça transforme votre existence. Oui, la mort de Jésus fut féconde. Et nous serions bien ingrats si nous ne lui exprimions pas à nouveau ce matin notre reconnaissance sincère, profonde, émue. Merci Seigneur. Merci d'avoir accepté de devenir pour nous le grain de blé qui meurt, afin que d'autres grains en abondance naissent et vivent. Ainsi, le sens de ces paroles, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire, est venu, se trouve-t-il éclairé. La croix, ce n'est pas Jésus qui s'incline devant la mort, c'est Jésus qui la terrasse au contraire, remportant sur elle le triomphe le plus absolu. L'heure qui vient est donc bien celle de sa gloire. Ce que le Père, soit dit en passant, ne manquera pas de démontrer. Lorsqu'après avoir vu son seul fils, son bien-aimé, s'offrir à la mort pour le salut de pécheurs sans nombre, il le relèvera d'entre les morts, pour l'élever à la plus haute place et lui donner le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais si dans notre texte, Jésus commence par présenter à ses disciples la croix comme une nécessité absolue, et aussitôt après, ils invitent à la comprendre comme un succès total. Il les presse enfin de l'accueillir comme un précédent exemplaire, un précédent exemplaire. Les paroles de Jésus contenues dans les versets 25 et 26, nous retiendrons d'abord celles-ci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ou comme le rend une autre traduction, si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre. Après avoir évoqué devant ses disciples l'imminence de son heure, Jésus, qui sait sincère leur désir de le servir jusqu'au bout, mais craint qu'ils n'aient pas tous compris ce à quoi ils s'engageaient, s'empresse de leur rappeler deux choses fondamentales, touchant à son service. Qu'il est le seul chemin par lequel on accède à la gloire et qu'il est un chemin qui passe nécessairement par la croix. Son service est l'unique chemin par lequel on accède à la gloire. Pour parvenir où je suis, explique en substance Jésus, ce sont mes mots, il faut accepter d'être d'abord mon serviteur. Seul, en effet, verset 26, celui qui me sert sera honoré comme moi-même j'ai été honoré par mon Père. Celui qui me sert. Comprenons-le bien, la règle qu'il énonce ainsi est une règle fondamentale fixée par Dieu, pour tous les temps et pour tous, pour nous donc aussi ce matin. L'accès à la gloire promise ne sera jamais ouvert qu'aux serviteurs de Christ, aux serviteurs de Christ. S'il a été élevé comme il l'a été par son Père, c'est, nous dit Paul, parce que lui qui possédait depuis toujours la condition divine n'a pas estimé qu'il devait chercher à demeurer de force légale de Dieu, mais au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme, il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi, conclut l'apôtre Paul, Philippiens 2, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, parce qu'il s'était fait serviteur. Si donc nous désirons un jour être élevés à notre tour et pouvoir partager pleinement le destin du Fils glorifié, il convient que nous aussi choisissions pour nous-mêmes la place du serviteur, serviteur de Christ, et donc serviteur des autres, l'un n'allant pas sans l'autre. Et je pose ici la question, est-ce bien le choix que nous avons tous fait ? Est-ce bien le choix que nous avons tous fait ? Mais peut-être est-il utile que, pour que nous puissions répondre en connaissance de cause à cette question, que nous soyons au clair sur ce que nous devons entendre ici par service. Remettons-nous donc à l'écoute du Maître, qui après avoir énoncé que son service est le seul chemin qui permettait d'accéder à la gloire promise, indique maintenant à ses disciples que son service est un chemin qui passe nécessairement par la croix. C'est le second enseignement de Jésus touchant à son service. Le servir, c'est le suivre. Et le suivre, c'est fatalement connaître un jour, comme lui, la croix. Reste à savoir ce qu'est cette croix qu'à la suite de Jésus, il nous faut accepter. Si nous désirons être honorés un jour, comme le Fils lui-même a été honoré par le Père. Deux mots, j'y reviens. C'est un thème que nous avons traité plusieurs fois. Deux mots, me semble-t-il, la résument assez bien. Renoncement et soumission. Renoncement et soumission. Si quelqu'un veut venir après moi, a déjà dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour le disciple, donc, la croix est d'abord synonyme de renoncement. Mais renoncement à quoi ? Renoncement à la vie, répond ici Jésus. Ne laissant subsister ainsi aucune ambiguïté, celui qui aime sa vie, nous confie-t-il en substance, au point de la vouloir garder pour lui tout seul, celui-là n'héritera pas la vie éternelle. Seul la recevra celui qui accepte aujourd'hui d'abandonner sa vie à Dieu et donc aux autres en même temps. Reste à savoir ce que signifie exactement abandonner sa vie à Dieu. Abandonner sa vie à Dieu, c'est la lui remettre entre les mains, si je puis dire, pour qu'il en fasse ce qu'il en veut, lui. D'où le terme de soumission que nous avons aussi choisi pour tenter d'expliquer la croix du disciple. Pour le croyant, mourir à la suite de Christ pour revivre avec lui, c'est abandonner ses prérogatives sur sa propre vie pour qu'il puisse faire d'elle ce que bon lui semblera. C'est accepter définitivement pour soi la voie de l'entière soumission à Dieu. Ma volonté dépassée. Seul m'importe désormais sa volonté. Mon intérêt négligeable. Seul compte pour moi maintenant son intérêt. Sachant que Dieu, dans sa grâce, fait souvent coïncider les deux, pour ne pas dire toujours. Et sa volonté et son intérêt sont que m'éloignant toujours davantage du péché sous toutes ses formes, je me rapproche chaque jour un peu plus de cette vie juste dont il nous a laissé le modèle parfait en Jésus-Christ. Faire après Christ l'expérience de la croix, c'est donc pour le chrétien tourner une bonne fois le dos à son passé dont on sait qu'il était placé sous le signe de l'injustice. et donc de la mort, pour s'engager résolument dans cette voie de la soumission et de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice et donc à la vie. Un geste d'autant plus difficile qu'il est radical. Mais un geste qui vaudra à celui qui aura accepté de l'accomplir, de recevoir aussitôt l'assurance d'être compté désormais parmi ceux à qui le Seigneur s'est lié pour toujours. Je résume, pour qui n'est pas mort à lui-même, il ne saurait être question de salut. Le chemin qui mène à Dieu, c'est-à-dire à la vie, passe nécessairement par la croix. Seul, par conséquent, celui qui a renoncé sur cette terre à vivre pour lui-même, afin de ne plus vivre que pour son Seigneur, entrera un jour dans la gloire. J'avais prévu à ce stade de vous poser la question, avons-nous tous fait cette expérience? Et puis je vous ai entendu chanter, « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. » Oh, ne permets à personne, pas même à moi-même, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Est-ce que vous avez réfléchi en chantant cette phrase? Je pense que si vous aviez réfléchi, personne n'aurait chanté là. Mais vous êtes allé de bon cœur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Que le Seigneur ait pitié de nous. Prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Je connais la réponse, vous me l'avez donnée. On ne sait jamais. S'il en était ici ce matin, qui n'avait pas encore fait cette expérience de la croix au sens de renoncement et de soumission à Dieu. Ma prière est qu'il puisse entendre ce pressant appel de l'apôtre Paul qui résume notre propos. Offrez-vous à Dieu, n'attendez plus, offrez-vous à Dieu. Comme des hommes et des femmes revenus de la mort à la vie. Et mettez-vous tout entier à son service comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Car, et je cite ici l'apôtre Pierre, si le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix, c'est afin que nous mourions aux péchés et que nous vivions d'une vie juste. Dès maintenant donc, vous devez vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu, et non plus selon les désirs humains. Fin de citation. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 4, verset 2. Je conclus, la croix pour Jésus, donc une nécessité, un succès, mais également un précédent. Puis cette interprétation, on ne peut plus sûre, puisque livrée par Jésus lui-même, de la croix restée gravée dans nos mémoires et inspirée pendant longtemps encore nos pensées, nos paroles et nos actes. En un mot, notre vie tout entière. Amen.